Thibaut de Rouvray, bonjour.
Bonjour Mathias Terrier.
Vous êtes historien et vous nous prenez par la main, si j'ose dire, pour nous faire découvrir la beauté de notre patrimoine et en particulier de notre patrimoine sacré. Dans la région, il se trouve que nous avons un magnifique patrimoine qui se déploie dans nos villes, nos villages, nos vallées. Que serait une église sans la musique ? Même si c'est un lieu de recueillement, un lieu où on aime prier, en silence parfois, mais elle a une place essentielle dans la musique, dans une église, dans un lieu de prière, une chapelle ou tout lieu spirituel.
Oui, puisque dès l'origine, en fait, la liturgie est associée à la musique, à la célébration. Donc, pour reprendre la phrase assez connue de saint Augustin, chanter, c'est prier deux fois.
Oui, alors on va essayer non pas de chanter, mais de découvrir avec vous ce qu'il convient de mettre en œuvre, ce qui a été mis en œuvre durant les siècles pour que justement la musique tienne une place, rien que sa place, pas plus, pas moins. Alors, dans une église, est-ce qu'il y a des lieux dédiés à la musique ?
Oui, alors géographiquement, si on peut dire, voilà, il va y avoir des endroits particuliers où les musiciens, les chantres, les instrumentistes vont pouvoir se placer.
Alors, ces lieux, quels sont-ils? Ça commence où? Est-ce qu'on pourrait donner quelques mots-clés, quelques définitions essentielles pour comprendre justement le positionnement de la musique dans le déploiement liturgique?
Oui, alors cette musique, elle est souvent très structurée, elle forme ce qu'on appelle une chapelle, hein, donc qui est à la fois un lieu bâti, mais qui peut être aussi l'ensemble des musiciens, qui sont sous l'autorité d'un maître de chapelle, celui qui dirige la musique, et ils vont se placer à différents endroits au cours du temps et au cours de la liturgie.
Ils se placent d'abord, il y a un mot qu'on connaît qui est, il y a le cœur d'une église, et je crois que ce mot est aussi donné à la constitution d'un chœur, c'est-à-dire d'un ensemble de personnes qui chantent.
Voilà, tout à fait. Les deux mots sont vraiment liés, puisque le chant peut se placer autour de l'officiant, du célébrant. Donc ça désigne à la fois le lieu bâti, hein, ce qu'on peut appeler la tête de l'église, la tête de la nef, ce qui est orienté à l'est, et puis aussi ce groupe de personnes qui vont former le chœur, qui vont former le chant de la liturgie.
Donc le chœur, c'est toujours deux choses, à la fois cet ensemble de personnes, humains, et c'est en même temps le lieu quand même clé de toute église où se célèbre la messe. Ce sont les deux choses.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments un peu structurants pour la place de la musique dans une église ?
Oui, alors ce chœur, ben souvent, il est isolé. Pour être encore plus sacralisé, il va être isolé du reste de l'édifice. Alors, dans les basiques romaines, on a des chancelles, donc des petites clôtures en pierre assez basses, mais qui forment une barrière physique. Et puis, au Moyen-Âge, va se développer ce qu'on avait abordé précédemment, ce qu'on appelle les jubés. Donc, une clôture très ornée qui va vraiment faire une barrière, qui va fermer de façon latérale une partie de la nef de l'église, à l'entrée du chœur.
Donc, chœur, chancelle, jubé, voilà trois mots. Donc, trois mots qui permettent de dire la place de la musique dans une église. Est-ce qu'on a des exemples de jubé dans notre région ?
Oui, on en a encore trois beaux exemples assez impressionnants qui sont toujours en place à la cathédrale d'Auch, à celle de Albi et à l'ancienne cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, où là, les jubés sont encore à leur place, hein, au milieu de l'église.
Donc, si on vous comprend bien, c'est une sorte de séparation. Hein.
Voilà, c'est une séparation qui est assez imposante, qui est bâtie, qui fait plusieurs mètres de haut, qui est assez large. Il y a une porte au centre et en général, de chaque côté, il y a deux chapelles aménagées. Et au-dessus, une plateforme qui peut servir aussi aux musiciens, aux diacres à se placer. D'ailleurs, le nom même de cette clôture vient des premiers mots latins de jubé, domine, benedicere. C'est la formule en fait que le célébrant va entendre adressée par le diacre. Daignez, Seigneur, nous bénir, c'est avant la proclamation de l'évangile.
Donc l'évangile se proclame aussi depuis le jubé, en tout cas de cette plateforme dont vous nous parliez.
Voilà, de fait, par sa position centrale, en hauteur, c'est un lieu qui peut permettre de communiquer à l'ensemble de l'Église.
D'accord, donc ces exemples que vous nous donniez dans la région pour entrevoir à la fois ces éléments structurants, mais en particulier les jubés, vous nous avez dit qu'il y avait des lieux particuliers. On peut citer Albi,
voilà,
Saint-Bertrand de Comminges,
tout à fait, et
Auch.
Voilà. Les trois exemples qui sont encore en place.
Oui.
Et vous avez des jubés qui ont été déplacés. Par exemple, à la cathédrale de Rodez, il est sur un des bas-côtés, sur un transept. Il a été démonté au XIXe siècle. Il y a eu toute une querelle d'historiens, d'archéologues qui ne voulaient pas qu'il soit détruit. Donc le compromis a été de rebâtir dans le transept.
Et il y a des endroits où ça a été supprimé, on le sait.
Oui, à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Alors, on avait un jubé du XVIIe siècle qu'on connaît par des gravures, des dessins du XIXe siècle. Il a été démonté et on a perdu sa trace.
Bon, alors on a placé le chœur. Chancel, jubé, nous en avons parlé. On parle aussi de tribune. Très souvent, la tribune tient une place particulière dans l'organisation musicale d'un lieu de culte comme une église.
Tout à fait. Alors, la tribune, voilà, c'est une sorte de galerie qui est placée en hauteur. On pourrait l'appeler en termes profanes une sorte de mezzanine, mais tribune, c'est le nom qui est consacré. En Belgique, on appelle les tribunes des jubés. Donc il y a un peu ce rappel en fait de la fonction des jubés que l'on avait autrefois. Et souvent, les tribunes, elles ont été rajoutées au cours du temps. Alors parfois pour gagner de la place, quand la population augmente, on ne peut pas pousser les murs, donc on rajoute des galeries. Et c'est là où vont se trouver certaines catégories de la population, notamment dans les Pyrénées, c'est très marqué, et ou dans au Pays Basque notamment, les hommes se placent toujours en tribune ou sur les galeries latérales, alors que les femmes restent au plus près de la nef.
Et souvent, dans la tribune, il y a l'orgue. On
Voilà, tout
aura
à fait.
l'occasion d'en reparler des orgues, hein.
Tout à fait. C'est là que vont se placer aussi parfois certains chantres ou choristes, ou quand ils restent dans le chœur, il va y avoir en tribune les orgues, les harmoniums, pour faire voilà, un écho aux chanteurs qui sont au chevet.
Vous avez prononcé le mot chantre. Qu'est-ce qu'un chantre, Thibault de Rouvray?
Alors un chantre, en fait, voilà, c'est la personne qui est le plus souvent à l'origine une personne, un clerc, une personne religieuse, qu'on va trouver dans les abbayes. Ça fait partie des postes clés parmi les moines, comme le sacristain, comme le prieur. Et ce personnage va avoir en charge toute l'organisation de la liturgie musicale.
Donc, il est un personnage clé, au-delà même des lieux, à la disposition des différents éléments dont nous avons parlé, pour faire en sorte que le chœur chante en harmonie avec la musique.
Voilà, c'est la personne qui va diriger la musique, donc qui va choisir les chants, qui peut aussi écrire la musique et qui va l'enseigner. Donc c'est voilà, une fonction très ancienne dans la liturgie et qui perdure de nos jours dans des sanctuaires importants. On en a à Notre-Dame de Paris, on en a encore à Lourdes, à Gyon et dans d'autres lieux.
Vous disiez très ancienne, on a des traces dans l'histoire ou dans les archives, vous qui avez cette chance de compulser les archives.
Oui, alors depuis les origines de l'Église, la liturgie romaine notamment, il y a des chantres. On en trouve beaucoup à la Renaissance en particulier. Et ils sont représentés à cette époque-là aussi dans les sculptures, dans les peintures. Et c'est vrai que pour la région, j'avais retrouvé l'exemple d'un acte de création d'un office de chantre à l'ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, donc au nord des Hautes-Pyrénées. Et là, nous sommes en 1586.
Ah oui, ça remonte quand même. Et puis, au fil du temps, est-ce qu'on a trace dans les archives de justement la place du chantre? D'ailleurs, peut-être son nom a-t-il évolué, hein, au fur et à mesure du temps?
Alors oui, c'est une fonction qui perdure encore largement au XIXe et au XXe siècle, même parfois dans des paroisses relativement modestes, et on peut le qualifier parfois de chef du lutrin, puisque le lutrin, c'est l'objet sur lequel on pose les livres de chant, donc c'est lui qui dirige la musique.
Chef de lutrin.
Voilà.
Et ils sont payés, ces gens-là? Ils sont rémunérés?
Tout à fait. Alors c'est vrai que souvent dans les campagnes au XIXe siècle, les paroisses n'ont pas beaucoup d'argent, mais on arrive toujours à récupérer un petit peu de quelques moyens pour payer un sonneur de cloche qui va aussi parfois servir de fossoyeur, mais aussi la musique est importante donc pour payer quelqu'un qui va diriger une chorale.
D'accord. Et donc, ces personnes dédiées au chant, vous avez dit, la personne clé, c'est le chantre ou le chef de lutrin. Il se place autour du chœur ou dans le chœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il se partage la place dans le chœur avec les clercs ou avec les célébrants?
Oui, c'est en fait voilà, souvent parfois derrière l'autel, un peu caché, va se trouver un petit instrument de musique, un harmonium, et autour le chef du lutrin et ses choristes, et ils ont leur place attitrée dans les
Dans des
stalles.
stalles.
Voilà. Parfois, on est étonné, lorsqu'on visite des églises, on voit énormément de sièges, énormément de stalles, et on imagine que la communauté religieuse était très importante, elle pouvait l'être, mais une grande partie de ces places était occupée par d'autres personnes, dont les membres de la chorale.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui, si vous le voulez bien, Thibault de Rouvray. La prochaine fois, ce que je suggère, c'est que vous nous parliez d'instruments.
Tout à fait.
Alors, il y en a un qui est connu de tous, c'est l'orgue.
Oui.
Et puis un autre, vous verrez, vous allez découvrir ce qu'est un serpent, par exemple. Tiens. Allez, on en reparle la prochaine fois. Merci.
Merci.